Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale à la une aujourd'hui, un climat inquiétant sur la scène internationale.
Commençons par le soutien de la Russie à la Corée du Nord. C'est le New York Times qui raconte. La Russie a utilisé jeudi son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies pour écarter le groupe d'experts de l'ONU chargé de surveiller la Corée du Nord et son programme nucléaire. Or, poursuit le quotidien américain, il y avait jusqu'à présent un sujet sur lequel Washington et Moscou faisaient cause commune, empêcher la Corée du Nord d'étendre son arsenal nucléaire. Et cela, même au cours des rencontres les plus tendues avec la Russie du président Vladimir Poutine. Alors comment expliquer ce revirement? Selon le New York Times, le groupe d'experts de l'ONU a fourni la preuve que la Russie maintient la Corée du Nord à flot de carburant, mais aussi d'autres marchandises, vraisemblablement en échange d'obus d'artillerie et de missiles que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un expédie en Russie pour qu'elle les utilise contre l'Ukraine. Les changements d'alliance et la guerre sont donc en toile de fond sur une scène internationale très fébrile. On apprend ainsi par le Washington Post que les troupes américaines se préparent actuellement à un conflit sur un champ de bataille d'île en île à travers l'Asie, l'ennemi supposé étant la Chine. Ces entraînements se déroulent à Hawaï alors que, nous dit-on, la Chine a considérablement étendu sa portée dans le Pacifique en construisant des îles artificielles pour ses avant-postes militaires dans la mer de Chine méridionale et en cherchant à étendre ses bases dans les océans Indien et Pacifique. L'armée américaine se prépare donc à affronter une force ennemie qui a l'avantage du terrain, précise le Washington Post.
Un autre conflit à la une, celui qui oppose Israël au Hamas.
Un conflit qui met mal à l'aise les écoles anglaises. Certaines d'entre elles ont donc décidé qu'on n'en parlerait plus. C'est le Guardian qui s'en fait l'écho, expliquant que les enseignants se sentent mal outillés pour aborder la question. Pourtant, selon la militante pour les droits humains Sarah Khan, qui a réalisé une étude sur le sujet, le conflit qui a provoqué d'énormes manifestations, 200 000 de manifestants pro-palestiniens à Londres et ailleurs, a eu un impact important sur les écoles où les élèves veulent parler des événements à Gaza. Mais, ajoute-t-elle, les enseignants évitent d'aborder les questions controversées par crainte d'être la cible de campagnes d'intimidation et de harcèlement. Certains enseignants pourtant seraient volontaires. L'un d'entre eux, qui a souhaité rester anonyme, explique « Dès le départ, on nous a dit qu'il s'agissait d'une question politique et que nous ne pouvions pas en discuter. Si on n'en parle pas, cela ne veut pas dire que les enfants ne s'y intéressent pas. Ils savent qu'il se passe quelque chose. Ils vont s'informer sur Internet sans aucun contrôle sur ce qu'ils voient. » Un autre enseignant renchérit. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles les écoles devraient être le lieu idéal pour enseigner ce genre de choses. Si nous ne le faisons pas dans les écoles, où nos élèves vont-ils trouver l'information? Que Dieu nous vienne en aide s'il s'agit des réseaux sociaux.
Enfin, Catherine, une anecdote révélée par le journal Libération.
Une anecdote qui concerne le récent voyage au Brésil d'Emmanuel Macron. Lors du déplacement présidentiel, raconte le quotidien français, un membre de l'intendance élyséenne a réservé un siège d'avion en classe affaires uniquement pour disposer de housses contenant les costumes du chef de l'État. Coût de ce voyage, plus de 3 000 €. Alors que les costumes d'Emmanuel Macron auraient aussi bien pu voyager dans l'avion présidentiel. De quoi susciter un certain agacement en ces temps de crise. Pour Libération, c'est certain, l'addition risque de froisser les Français. Au moment où Bercy et Matignon prépare les esprits à une cure de rigueur budgétaire, notamment sur les prestations sociales et l'assurance chômage.
Catherine Potet, merci beaucoup. À tout à l'heure.